Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'épisode numéro 12 de Cornelius Enzira, épisode consacré à Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes, le quatrième film de la saga Planet of the Apes. Et donc je suis le Dr Zaius et je suis toujours en compagnie de mon ami Master Fred.
Bonjour à tous.
Enfin bonjour, il est 2h du matin en vrai. Hein. Mais donc on est fatigué, donc on va essayer d'aller vite et donc on envoie tout de suite le générique.
Lousy human bastard! You, above everyone else, should understand. We cannot be free until we have power.
Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage. And the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has... acquire the power of speech.
If we lose this battle, that's the end of the world as we know it. We will have proved ourselves inferior, weak. Then all those grumbling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes.
The king is dead.
Long live the king.
Where there is fire, there is smoke. In that smoke, from this day forward, my people will crouch and conspire and plot and plan for the inevitable day of man's downfall, the day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind, the day of the writing in the sky, when your cities lie buried under radioactive rubble, when the sea is a dead sea and the land is a wasteland, out of which I will lead my people from their captivity, and we shall build our own cities in which there will be no place for humans except to serve our ends. And we shall found our own armies, our own religion, our own dynasty. And that day is upon you now!
Donc on rappelle hein, Cornelius Enzira, encore un podcast qui est disponible sur PodCloud, Apple Podcast, mais également sur YouTube, et vous pouvez nous interpeller aussi bien sur Facebook, hein, si vous tapez Cornelius Enzira Podcast dans Facebook, vous nous trouverez, ou sur Twitter, @andzira, A-N-D-Z-I-R-A. Donc voilà, c'est pour la promo, et maintenant on peut attaquer tout de suite cette dernière partie. Donc on va parler du dernier tiers du film. Donc oui, si vous n'avez pas écouté les deux parties précédentes, je vous suggère de le faire, et ou alors si vous avez quand même envie de commencer par la fin, ça serait mieux si vous ayez déjà vu le film, et peut-être même aussi les trois précédents films de la planète des singes, parce que ça se pourrait qu'on spoil un peu les autres films, hein.
C'est sais, mieux.
Ça peut arriver au détour d'une conversation, hein. Peut-être qu'on spoilera d'autres films, bon voilà, hein. On risque de digresser, mais ça, si vous êtes des habitués de Cornelius Enzira, vous êtes au courant de comment ça marche. Bon allez, on rattaque tout de suite, là, pied au plancher, donc là, reprenons donc le soulèvement des singes. Donc la première cible des singes, ça va être le centre de reconditionnement des singes, ce qui est très intelligent d'un point de vue stratégique, parce que d'une part, ils libèrent d'autres singes, hein, ça fait qu'ils ont une plus grosse force de frappe, mais aussi ces singes, comme s'ils sont en reconditionnement, c'est parce que ce sont des singes qui ont déjà fait des actes de rébellion, donc qui a priori, que ça dérange pas trop de mettre un coup de serpette dans la tête à un humain, quoi. En plus de ça, César va être extrêmement malin parce qu'il va s'emparer du poste de commande de ce centre de reconditionnement, d'une part pour ouvrir les cages, hein, les portes des cages, pardon, parce qu'on l'a expliqué avant, c'est
des petits rayons blancs là, ouais.
Voilà, donc il suffit d'appuyer sur un bouton et puis voilà, hein, il y a plus de porte. Et aussi, il va faire passer un message en utilisant le micro du centre pour dire donc aux humains.
Attention, avis à tous les gardiens. Il y a pour 50 000 dollars de singes en danger de mort. Laissez-les tous sortir vivants.
Et donc la vénalité de l'être humain va le mener à sa perte, parce que les gardiens du centre vont hésiter à utiliser leurs armes, et du coup bah ils vont se faire déborder par les singes qui alors eux vont voir aucun scrupule, ils vont y aller au lance-flammes.
Et tu je trouve que elle est très bien construite, ce dernier segment est très très bien construit, parce que tu revois toutes les un peu à la manière du petit poussé quoi, toutes les tous les petits cailloux blancs qu'on a eu sur bah le conditionnement justement, tu parlais du lance-flamme, donc le gars au lance-flamme, on le revoit et on voit aussi sa fin, la façon dont il va terminer, toute la façon dont ils sont en train de faire dont ils complotent, dont les singes sont en souterrain et ont récupéré du kérosène, ont récupéré des armes, ont récupéré des couteaux, etc. Et là tu vas voir l'accomplissement de tout ça, et c'est, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien construite quoi, ce troisième acte est vraiment l'accomplissement des deux actes précédents quoi.
Ouais, puis encore une fois il y a aussi une cohérence j'ai envie de dire artistique, toute cette scène là sont filmées caméra à l'épaule et oui.
C'est vrai.
Alors il y a aussi, alors, pour des petits trucs techniques, pour toutes les scènes d'action, notamment alors la scène qu'on a évoquée avant, la scène de torture, donc on a évoqué à la fin de la deuxième partie de l'épisode, mais pour les scènes d'action en règle générale, il y avait un gros problème. Pendant la scène de torture, en fait, Roddy McDowall, il était embêté parce qu'il fallait qu'il fasse gaffe à pas maltraiter ses prothèses et à pas faire bouger sa perruque. Et c'est vrai que mine de rien, des scènes d'action, parce que on peut carrément parler presque de mêlée. Hein, il y a des corps à corps entre les humains et les singes, je pense qu'il y a dû quand même une paire de raccords maquillage qui ont dû être faits. Et oui. Toujours pour parler des côtés techniques, et on l'a dit plusieurs fois, hein, le côté ils ont été très malins pour faire en sorte qu'on voit pas que c'est une production. Je vais pas dire que c'est un film fauché, mais pas loin quoi. Et toutes ces scènes-là ont été tournées de nuit. Et alors pourquoi de nuit? Bah d'une part ouais, parce que on voit, c'est moins bien éclairé, donc on voit peut-être moins bien que certains figurants qui incarnent des singes ont peut-être un maquillage un peu cheap. Et donc ouais, si ça avait été filmé de jour, forcément on l'aurait plus vu. Et puis il y a aussi, rappelons que ils avaient négocié donc pour tourner
cette nuit, ouais.
Voilà, 7 jours et 7 nuits. Mais est-ce que tous les riverains avaient bien capté pendant des scènes de jour, il y a le risque qu'il y ait des gens, tu sais, qu'il y a un badaud qui passe ou un truc comme ça. Voilà, la nuit c'est un peu moins probable. D'ailleurs ils ont un petit problème. Il y a une scène qu'ils ont dû retourner qui était vachement bien parce qu'en fait il y a un chien qui est passé en arrière-plan et sur le coup ils ont pas tilté. Il y a quelqu'un qui a dit à Jack Lee Thompson, mais non c'est pas bon, on a dit avant que tous les chiens étaient morts. Et enfin voilà, donc ça c'était pour une scène de jour, mais ouais, donc voilà. Et puis aussi bon, le côté nocturne, ce qui est très malin, c'est que ça renforce le côté dramatique hein, de ces scènes d'action.
Et encore une fois oui, on utilise vraiment à plein les décors, parce qu'il y a certains décors qui sont à coup sûr filmés deux ou trois fois
dans des angles différents,
voilà, exactement, pour signifier des emplacements différents, des lieux différents, pardon. Mais ça marche super bien, mais ça marche très très bien.
Mm-hmm. Et puis en plus de filmer de nuit, ça leur permettait de pas utiliser un trop grand nombre. Alors qu'on a l'impression qu'ils sont nombreux, mais en fait il n'y a pas tant de figurants que ça. Et surtout parce qu'en fait ils pouvaient pas disposer d'autant de maquilleurs qu'il y ait pu en avoir. On rappelle que sur Planète, à un moment, il y avait un problème à Hollywood parce que tous les maquilleurs étaient sur les studios de tournage de Planet of the Apes. Et donc là, ils n'ont pas pu faire ça. Donc en fait, les acteurs qui incarnent les singes étaient maquillés en décalé. Donc du coup, voilà, ils pouvaient pas les avoir tous en même temps à l'écran.
Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a une utilisation de plus en plus importante de masques?
Non, bah, oui, c'est certain. Ouais, oui, ça c'est sûr et certain. Ouais.
Parce que tu sais, dans Binis, déjà, enfin, on l'avait expliqué. Hein, tu l'avais expliqué que la fameuse scène de l'arène où il y a énormément de masques qui sont utilisés. Et là, vraiment, ça se voit. Et puis il y avait aussi une amélioration, pardon, dans le maquillage. C'est ça. Hein,
ouais. Mais ça c'est dès le premier hein, ouais, dès le premier ils ont un peu comment
ils
dire,
allaient de plus en plus vite
oui parce qu'ils ont un peu rationalisé le travail, ils ont un peu fait ça bah comme à la chaîne quoi,
le taylorisme
oui voilà, c'est ça le mot que je cherchais.
Ils ont taylorisé le
exactement ouais. C'est un peu sachant que le personnage principal s'appelle Taylor, c'est un petit peu caustique.
Le gouverneur Breck donne l'ordre suivant à tous les citoyens: rentrez chez vous, restez dans vos maisons et fermez vos portes, mais surtout pas de panique. Je répète, rentrez chez vous, restez dans vos maisons et fermez vos portes. La situation pourra très vite être reprise en main si nos forces de police ont la liberté complète de leur mouvement.
Bon, on parlait de l'aspect dystopique dans la deuxième partie. Bon, là, c'est renforcé également parce que le gouverneur Breck décide de mettre en place un couvre-feu. Alors, on est en plein dans la loi martiale, hein, parce que là, ça laisse plus que place à la police, les uniformes noirs, les bruits des bottes qui claquent, et il ordonne que l'on tire sur les singes pour tuer. Et alors déjà les médias annoncent que la révolte est menée par le fils de Cornelius Ezira. Alors là, ça provoque la colère de Breck, parce que pour Breck, César est mort. Et jusqu'au bout, il le pense, jusqu'à temps qu'il le voit vivant, il pense que César est mort sur la table de torture. Hein.
Ordonnez la mobilisation de toutes les forces de sécurité, police, milice et les unités de défense de réserve. Je veux que toutes les sorties de la ville soient barrées immédiatement.
Bien, monsieur.
Vous allez employer sans doute les gaz lacrymogènes et les fléchettes sédatives.
Sûrement, mais la meilleure méthode de contrôle, à mon avis, c'est de les tuer.
Et un petit groupe de singes incarcérés pour subir un conditionnement intensif s'est échappé du bâtiment de conditionnement. Jusqu'à ce que la police les remette en cellule, nous demandons à tous les citoyens de rester chez eux. Prochain bulletin spécial dès que nous aurons de plus amples informations. Et je crois que nous en avons déjà. Le bâtiment de conditionnement est entre les mains des chimpanzés. Plusieurs de leurs gardiens ont été tués ou sont gardés en otage. Et la plupart des singes qui se sont rebellés sont en train en ce moment de marcher sur la ville. D'après les renseignements que nous avons, ce petit groupe serait dirigé par un singe qui paraît plus intelligent que les autres, un chimpanzé, qui aurait acquis le pouvoir de la parole.
Mais c'est idiot! Il rétracte immédiatement ce qu'il a dit. Qu'il annonce qu'on a arrêté le chimpanzé qui avait parlé et qu'on vient de l'exécuter.
Mais on croyait avoir tué, avec ses parents, Cornelius et Zira, et qui était venu de l'espace sur notre planète il y a 20 ans de cela. Et en tant que tel, il constitue une véritable menace pour l'avenir de la race humaine tout entière.
Alors, juste sur cette scène-là, comment dire ? À la revoyure, on est dans un état policier, avec une information qui est maîtrisée, etc. Je trouvais que ça cadrait moins bien.
Ah, je suis d'accord. Ah, encore une fois, peut-être une petite faille scénaristique, quoi. Je suis d'accord.
Raccourci scénaristique, parce que là, t'es plutôt sur, sur des fuites et sur une information non maîtrisée.
Ah, c'est vrai que tu te dis dans un état totalitaire.
Ouais, exactement. La première chose qui est maîtrisée, c'est l'information.
Ouais, voilà. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a peut-être un petit. Ou alors, c'est peut-être pour nous montrer qu'ils sont pas encore, ils ont pas encore parvenu à phagocyter toute la société. J'en sais rien. Mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un passage qui me dérange un peu.
Mais enfin, en tout cas, c'est clairement de l'exposition. Encore une fois.
Oui.
Pour voilà, ce qui fait que après, le gouverneur n'aurait pas la réaction qu'il a après s'il savait pas que César était le fils de Cornelius Ezira.
Ça n'excuse pas quand même. Je suis d'accord que ça, pour moi, il y a un petit problème de cohérence. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique.
Oui, bien sûr. Non, mais bon, tant qu'on y est souligner ce qui marche pas. Ouais, ouais. Exactement.
Ouais. Mais d'ailleurs, pour revenir aux scènes de soulèvement, elles sont quand même assez longues. Et ce qui en ressort encore une fois, ce qu'on a évoqué avant, c'est que les humains sous-estiment les singes et font preuve de vanité, je trouve, dans un premier temps, parce que ils vertu à crier non,
arrêtez-vous
dans un mégaphone, comme si les singes allaient soudain gentiment déposer les armes et comme ils ont été conditionnés à le faire, se barrer. Ou même la première salve de coups de feu, ils se marrent en fait. Et comme s'il pensait que qu'avoir tiré quelques coups de feu, ça allait suffire à
disperser les meutes.
C'est ça, c'est le mot que je cherchais, disperser, merci. Bon, alors ça, je crois, cette scène de rire, on ne la voit que dans la version extended. Je crois que c'est que dans la version qui est sortie en salle, c'est coupé juste avant. On ne les voit pas rire. Pareil. Après, il y a les scènes de massacre de singes. On voit du sang. Ça, on ne le verra pas. On ne le voit pas dans la version au théâtre.
C'est d'ailleurs mieux parce que ça, en Blu-ray, ça fait un peu ketchup, hein. C'est un peu une scène ketchup, hein.
Après, quand tu compares à ce qui se faisait à l'époque, tu vois, le sang dans Zombie et tout, c'est un peu dans le même délire, hein. Moi, je trouve ça me choque pas tant que ça.
Zombie, déjà, t'es plus tard, et puis, Romero voulait aussi clairement faire des choses qui choquent, quoi. Ça passe moins bien.
Fait peinture, hein, c'est vrai, je suis
non,
d'accord.
Non, mais c'est, je pinaille.
mais toujours est-il que les humains, en fait, tombent dans le piège des singes parce qu'ils les sous-estiment. Forcément, il y a un climat inquiétant, hein, sans déconner. Il y a tout le monde qui se tape dessus, ça brûle. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que l'empathie du spectateur se dirige vers les singes. Ce qui est un tour de force, quand même. Jusque-là, à part Cornelius, Zira, et puis Milo, mais qui n'est pas très là très longtemps, les singes sont flippants dans les premiers films. Et là, on a vraiment, il n'y a pas de dialogue, il y a juste de la violence brute. Et au final, il n'y a pas vraiment de bon et de méchant, quoi. Puis peut-être aussi qu'on n'oublie pas tout à fait que les gorilles sont quand même les brutes de l'histoire. Il y a que c'est le seul Conquest, c'est le seul film où on va avoir de l'empathie pour les gorilles. Oui, parce vrai. Que tous les autres films, les gorilles, c'est vraiment les bad guys, quoi.
Ça, on pourra en reparler tout à l'heure quand on parlera de la fin alternative. C'est un peu cassé justement par. Tu veux peut-être qu'on en parle tout de suite, non, de la fin. Non, peut-être pas. On va se garder ça pour après.
On n'est pas loin de la fin, donc autant.
Vas-y. Ouais. Donc on continue sur le. Oui.
Mais donc ouais, mais là pareil, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu dans leur sens. Il y a un moment où on voit les singes qui empilent du mobilier urbain, tu vois, mais et aussi des cadavres d'humains. Et il y a pas de différence. Mais je trouve ça quand même intéressant que le film est pas forcément manichéen.
Ils ont atteint la place sud.
Mais ils sont armés.
Oui, ils sont organisés.
On parlait des bémols aussi, il faut quand même dire aussi que, bon, ils ont pas employé les meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Y a certains passages qui ont quand même pas la fureur qu'il faudrait. Genre, tu vois, les gars qui tombent avant même de subir l'impact, ou des coups qui sont clairement pas portés, bon, voilà, parfois il y a le bruitage qui est un peu faiblard, mais bon, vu le budget rachitique, on l'a dit plein de fois, franchement, Jack Lee Thompson, il a quand même fait du bon taf, quoi.
Oui, c'est du bon taf, oui, absolument.
Alors, ouais, il y a aussi ce passage-là, le score reprend des sons bizarres, un peu comme les bols en acier qui étaient utilisés par Goldsmith dans Planet, ou des instruments clairement détournés de leur utilisation inhabituelle. Alors ça, leur utilisation habituelle, pardon. Ça, on ne le voit, donc la version cinéma et la version unrated ont un score différent. Et le score dont je parle est dans la version unrated. C'est bref, mais forcément vu que les scènes sont plus longues, ils ont dû avoir un problème au niveau de la musique, quoi.
Et quand je l'ai revu, j'ai même à un moment j'avais noté d'ailleurs sur mon conducteur peu de musique dans les scènes de combat et j'ai même un moment tendu l'oreille en me disant mais il y a pas de musique là, c'est juste des bruitages. Et en fait non, effectivement, t'as raison, il y a toujours de la musique et comme tu disais, voilà, des bols comme Jerry Goldsmith l'avait fait pour le premier. Ouais.
On va arriver à cette scène très informante que j'aime beaucoup, la scène où les singes prennent le contrôle du poste de commandement. Et oui. César fait épargner McDonald, Breck est maîtrisé, et là, c'est à ce moment-là, donc on en a parlé un peu avant, donc César lui fait révéler pourquoi il déteste les singes.
César, votre serviteur. Votre esclave, votre animal.
Mais je vous ai vu mourir.
Eh oui, le roi est mort. Vive le roi. Dites-moi, Breck, avant de mourir, en quoi sommes-nous différents des chiens et des chats que vous et votre race avez tant aimés? Pourquoi nous avez-vous changé d'animaux domestiques en esclaves?
Parce que votre race était autrefois celle de nos ancêtres. L'homme descend directement de vous. Et en chaque homme, il y a un singe qui sommeille. La bête que nous sommes obligés de combattre à chaque minute. Le sauvage que nous apprenons à enchaîner en nous. Vous êtes cette bête, César. Vous nous avez corrompus. Vous êtes le poison qui coule dans nos veines. Oui. Quand nous vous haïssons, nous. Nous haïssons les ténèbres qui sont au fond de nous.
Donc César se retient de l'achever à coups de crosse de fusil lorsqu'il crie en notera que cette fois-ci, on a pris soin de peindre ses dents en noir. la suite, hein, les singes vont laisser libre cours à leur fureur, donc je dis, ils empilent les cadavres, ils s'acharnent dessus à coups de crosse, et parmi eux, seule Lisa semble désapprouver ou au moins être mal à l'aise. McDonald interpelle César en lui disant
« Ce n'est pas ainsi que ça devait se passer. De votre point de vue ou du mien ?»
La violence prolonge la haine et la haine prolonge la violence. Mais de quel droit allez-vous commettre ces meurtres?
Du droit qu'ont les esclaves de punir leurs persécuteurs.
César, moi, le descendant d'esclaves. Je vous demande de faire preuve d'humanité.
Mais moi, je ne suis pas un être humain.
Je sais. Vous êtes le fils de singes plus évolué que les autres.
Dont les enfants vont diriger la Terre.
Pour faire mieux que les hommes ou pour faire pire?
Mais est-ce que vous croyez que ça peut être pire?
Et vous, vous croyez que cette révolte va pouvoir libérer votre race tout entière? Mais demain...
Mais demain, il sera trop tard.
On pourrait même se dire que finalement, Lisa, ce serait presque le point de vue du réalisateur. Parce que à la violence policière est opposée la violence de l'émeute, et que finalement, dans le discours de César, on sent bien que rien n'est résolu. On sent bien que humain et j'allais dire zombie, pardon, et chimpanzé, enfin, et singe n'arriveront jamais à vivre en paix les uns avec les autres. Donc il y avait sûrement une troisième voie qui était peut-être possible et qui sera jamais exploitée finalement.
Ah, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis.
Enfin, il me semble, tu sais, il y a toujours. C'était un peu le. Justement, on parlait de Schaffner tout à l'heure. C'était un peu ce qui avait été mis en exergue sur le film Patton de Schaffner. C'est-à-dire que, en fait, Schaffner a fait avec Patton un film qui peut aussi bien être aimé par les militaristes pur jus que par les pacifistes pur jus. Tu sais, c'est que à aucun moment le réalisateur ne prend vraiment parti, quoi. Et c'est la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on pense, quelle est la critique de ce qu'on fait, quoi. Donc finalement, Lisa serait peut-être la demi-mesure entre tout ça, quoi. Entre les deux types de violence, violence policière, violence des singes, bon, bah, elle est un petit peu entre les deux, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on compatit plus du tout avec les chimpanzés, justement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ce qui m'a justement choqué, moi, tout à l'heure, quand j'ai revu la version unrated, donc la version la plus violente, hein, clairement, que à ce moment-là, tu t'es plus du tout, enfin, César te semble, c'est plus César du tout qu'on a connu, quoi, et qu'on va revoir après dans Battle, quoi, qui est un être apaisé, plutôt un être de raison, qui est là plutôt pour faire d'être diplomate, être dans les compromis. T'es plus du tout là-dedans, quoi. T'es vraiment dans quelqu'un qui n'aspire qu'à la vengeance, qui est plus qu'un être de vengeance, quoi.
Et d'ailleurs, en plus, on va le retrouver dans le discours qui est dans la version unrated, le discours de fin, donc où César prophétise ce qui se passera dans Planète.
Oui, exactement, exactement, bien sûr.
Ce que vous nous avez vu faire aujourd'hui, les singes des cinq continents vont le faire à leur tour dès demain.
Avec des couteaux contre des fusils, du pétrole et des allumettes contre des lance-flammes puissants.
Où il y a du feu, il y a de la fumée. Et c'est dans cette fumée et à partir d'aujourd'hui que mon peuple va se regrouper et conspirer et comploter et se préparer en attendant le jour inévitable de la chute de l'homme, le jour où, finalement, il se détruira lui-même en retournant les armes contre sa propre race. Le jour qui est écrit dans les astres, où toutes vos villes giseront sous les décombres de la radioactivité, où la mer sera une mer morte, où la terre sera totalement stérile, alors ce jour-là, mon peuple sortira définitivement de sa captivité. Et nous construirons nos propres villes dans lesquelles il n'y aura pas de place pour les êtres humains, sauf celle de nos serviteurs. Et nous créerons nos propres armées, notre propre religion, notre propre dynastie. Et ce jour-là peut arriver maintenant!
Dans la version unrated, donc le film s'achève sur les singes qui abattent les crosses de leurs fusils sur Breck, donc pour le terminer, quoi. Donc ça, voilà. Alors que dans la version ciné, ça se termine un peu plus tôt. On ne voit pas les crosses s'abattre, quoi. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle maintenant des différences entre unrated et extended?
Ouais, bah allons-y. Et pourquoi, peut-être commencer en disant pourquoi il y a deux versions justement.
Bah si tu veux, vas-y, si tu veux y aller.
Ouais, ok. Alors il y a eu des projections de test, comme ça se fait beaucoup. Alors je crois que c'est là justement de cette époque-là, hein, les premières projections de test, il me semble, non?
Je sais plus, je me demande s'il y en avait, ouais. Je crois qu'il y en avait déjà eu pour Planète. Il me semble qu'il y en avait déjà eu pour Planète.
Mais hein. Je veux dire, tu sais, historiquement, est-ce qu'il y en a eu beaucoup avant qu'on en fasse pour ces films-là, ou est-ce que c'était une pratique habituelle? Je sais pas trop.
Ça sera à vérifier. Ça, franchement, j'ai, ouais, pas de réponse.
En gros, depuis quand on fait des projections de test Il Il y a eu une projection test pour présenter le film et les résultats ont été très mauvais. Et plus particulièrement par rapport justement à la fin. Donc ce qui a été décidé, c'est de faire d'importantes modifications dans la dernière demi-heure afin d'obtenir un classement donc PG, c'est-à-dire donc présence parentale obligatoire, mais surtout de ne pas avoir donc une classification R, comme on a pu le dire donc dans R, donc dans le deuxième épisode. Donc c'est quelque chose qui ruinerait complètement le potentiel commercial du film. Donc il y a des inserts de plans violents trop explicites donc qui sont coupés complètement, mais c'est surtout en fait le discours final de César qui va avoir les plus grosses modifications et donc les plans qui sont associés. Donc ce qui va se passer, c'est comme effectivement on n'arrête pas de vous le dire qu'il y a un budget très très réduit pour ce film, donc impossible de faire de retourner sur les lieux du tournage justement et de refaire des scènes, de refaire justement cette scène de nuit, etc. Donc ça, la production très vite a dit non. Par contre il y a donc Roddy McDowall qui est revenu en studio pour enregistrer un nouveau discours qui était beaucoup plus dans la conciliation et dont le sens était totalement différent, et le sens était totalement différent, donnait un sens différent aussi au film, à la fin du film.
Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons oublier notre haine. Aujourd'hui, nous allons baisser les armes. La nuit de la révolte est terminée. Et ceux qui étaient nos maîtres sont maintenant nos serviteurs. Et nous, qui ne sommes pas des êtres humains, nous pouvons nous permettre d'être humains. La destinée est la volonté de Dieu. Et si c'est la destinée de l'homme d'être dominé, c'est la volonté de Dieu qu'il soit dominé avec pitié et compréhension. Alors, chassons notre désir de vengeance. Cette nuit, nous avons assisté à la naissance de la planète des singes.
Ça passe quand même moyen parce qu'il dit quasiment l'inverse de ce qu'il vient de dire juste avant.
Oui, on est d'accord, on est d'accord. Parce qu'il
prophétise la quasi-disparition de l'humanité et puis l'esclavage pour les survivants. Puis après, il fait, mais bon, finalement, on est copains quand même.
Ouais. Et donc, il y a aussi un plan, le plan où les chimpanzés abattent massacrent à coups de crosse le gouverneur Breck.
C'est des gorilles.
Excuse-moi, c'est des gorilles.
Les bourrins, c'est des gorilles. Hein.
Les bourrins, c'est des gorilles. Toujours. Je sais que t'aimes pas beaucoup les gorilles.
Si, non, c'est pas que je les aime pas, mais c'est des bourrins.
C'est des bourrins, voilà. Et donc, cette scène va être montée à l'envers pour justement montrer le mouvement des crosses qui se lèvent pour dire on va t'épargner, mon pépère. Voilà.
Mais ouais, pour revenir à rien à rajouter hein, sur ce que t'as dit. Alors si, peut-être un truc quand même, Jack Lee Thompson était pas très content qu'on ait changé la fin.
Bon, ça, ah ok, d'accord, ça je savais pas, je sais pas qui était.
Mais ouais. il a admis qu'il comprenait à 100% les raisons du changement de ton du film, mais il regrette quand même que ça dénature son film. Bon, en gros, il a essayé de pas perdre
donc
la face.
Jack Lee Thompson, le réalisateur, pour les deux du fond qui suivent pas.
Exactement. Mais bon, donc, pour expliquer la différence donc entre cette version, alors qu'on peut appeler soit unrated, extended, et la version cinéma, finalement la différence c'est que il y a plus de flammes et de sang dans la version donc voulue par Jack Lee Thompson, donc il devait être plus cru. D'ailleurs on voit Breck qui abat un gorille de sang-froid. Donc je l'ai dit, hein, même le score est différent. Bon, au final, ouais, la tonalité change pas vraiment. C'est surtout le discours de fin. En termes de violence, je trouve qu'on est quand même un peu le cul entre deux chaises, même dans la version unrated, parce que ouais, il y a du sang apparent, mais on verse jamais dans l'horreur pure hein, quand même. Hein, ça,
non,
c'est juste la violence est plus crue. Mais
on est que en 72 aussi. Hein, c'est...
mais voilà, ouais. Donc dans la fin voulue par Thompson, le personnage de César est celui d'un leader vengeur. Quand dans la version ciné, ça fait place à un César, ouais, qui est prêt à faire preuve de compassion. et aussi à une Lisa qui est capable de parler, parce qu'il y a ça aussi qu'ils ont rajouté. Donc c'est, comme ils ont retourné les scènes, on ne voit pas la bouche de Roddy McDowell, pour pas qu'on voit que c'est pas que on voit juste ses yeux, et puis on voit aussi des images autour et on voit beaucoup Lisa.
Oui, tu vois beaucoup de plans d'ensemble et effectivement Lisa, oui. Mm.
Et donc au final dans cette histoire, le premier singe qui prononcera le mot non, ce ne sera pas Aldo mais Lisa. Sauf qu'elle dira alors elle le murmure plus qu'elle ne le crie, hein, mais et son nom, elle le dit non pas pour s'opposer au joug imposé par les humains, mais pour empêcher le massacre de Breck. Donc, oui. on est dans, presque dans le contresens.
Oui, c'est vrai, oui, absolument. Absolument. Oui, complètement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, oui, effectivement. On est presque, oui, qu'on est complètement dans un contresens, oui.
Mm. Bon, et puis oui, donc tu as parlé des projections tests, et voilà, ce qu'il faut, on l'a déjà dit, mais on va le redire. Les tests faits en présence du public qui étaient composés quand le public était composé en majorité d'Afro-Américains, c'était extrêmement positif. Par contre, eux, la version de Jackie Thompson, eux, ils l'ont aimé. Mais par contre, ouais, c'est là le public à majorité d'origine européenne, là pour le coup, eux, ils étaient choqués par la noirceur et la violence du film. Et en plus de ça, la Fox aurait rétro-pédalé, donc par peur d'être classé R, mais aussi ils avaient aussi peur que qu'on considère carrément Conquest comme un film, comme une incitation à l'émeute. Voilà, il y a un peu tout ça qui a joué.
Carrément. Incitation à l'émeute, ah oui, les mecs ils sont... Et tiens, si tu veux faire aussi une autre parenthèse, les premières projections test ont eu lieu en 1928.
Donc
c'était pas tout neuf.
Ok. Ah, donc comme quoi, ça prouve que l'aspect commercial du cinéma, elle est quand même très ancienne, parce que la projection test, à part dans un but commercial, je vois pas pourquoi on en ferait, quoi. Une œuvre, logiquement, doit être présentée telle quelle, quoi.
On est d'accord. Cette dichotomie du cinéma qui est une industrie, mais aussi un art, ouais, effectivement.
Bah là, je paraphraserai Alejandro Jodorowsky, oui, qui dit que le cinéma est le plus beau des arts parce qu'il les contient tous, mais que c'est aussi le plus c'est quoi déjà le terme qu'il utilise, le prostitué, enfin il fait un parallèle avec la prostitution, voilà, et que Gérard Benz avait dit mais bon parfois il faut peut-être une petite prostitution pour une grande illumination.
excellent.
C'est un génie, Jodorowsky,
sacré Jodo.
Donc on a parlé des projections test et des populations afro-américaines. Faut dire aussi que en termes de contexte cinématographique, Conquest sort en plein essor de la Blaxploitation. Donc il sort un an après le film de Melvin Van Peebles. Donc je vais te laisser dire le titre.
Sweet Sweet Badass Song.
Voilà, donc avec 3 A et 5 S. Et donc il y a aussi Shaft, je crois, qui s'est sorti un an avant.
Ouais, c'est ça, 72, ouais.
Je crois à plus ou moins la même époque, il y a Cotton Comes to Harlem qui sort. Il y a aussi Blackula, Superfly.
Superfly, ouais, aussi.
Il y a aussi The Man qui sort, un film écrit, tiens, par un certain Rod Serling. Et en tout cas, mais c'est vrai que par son petit budget, la violence du film et son propos, Conquest rappelle vraiment pas mal les films de la Blaxploitation, quoi. En plus de ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui va te parler, parce que et on est quand même dans une phase de changement vis-à-vis de ceux qui sont d'habitude considérés comme les bad guys. Voyons aussi comment ont été considérés les Native Americans. On en a déjà un peu parlé, mais regarde, un film comme A Man Called Horse sort en 69.
Soldier, un homme nommé cheval, donc
voilà, ouais. Et Soldier Blue et Little Big Man sortent en 70. Donc on est aussi quand même dans ce contexte-là. On en avait déjà parlé, hein, que.
Toutes les façons, Conquest, il s'intègre très bien dans cette tendance du cinéma américain qu'on a appelé le nouvel Hollywood, qui était donc l'éclatement du code Hays, qui était donc le code de censure, et aussi c'était tous ces enfants du baby boom qui en avaient un peu ras-le-bol du. Il y a eu le McCarthyisme aussi avant aux États-Unis, et en fait tout est en train d'éclater, quoi. En 68, c'est pour ça. Enfin, voilà, le fond de l'air était rouge, hein, pour paraphraser Chris Marker à cette époque-là. Et donc, dans le cinéma, il y a eu aussi ça. Il y a eu une nouvelle vague, comme il y avait eu en France 10 ans avant. dans le cinéma américain, où les thématiques étaient complètement différentes. Il y avait des jeunes loups, des jeunes réalisateurs qui arrivaient, Brian De Palma, Scorsese, même Spielberg aussi, on peut aussi le mettre dans cette famille de réalisateurs-là. Il y avait aussi des jeunes acteurs qui arrivaient, des mecs comme De Niro sont arrivés à ce moment-là, Al Pacino est arrivé aussi à ce moment-là, même aussi un réalisateur que j'ai pas cité, mais William Friedkin, qui sera très très important aussi dans cette tendance du cinéma, dans cette vague qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Et effectivement, Conquest peut complètement aller dans cette vague-là. C'est des thématiques complètement différentes. On n'est plus sur du cinéma qui est, entre guillemets, du cinéma de papa, avec un début, un milieu, une fin, et une histoire d'amour où la morale va être sauve, où on va avoir des personnages qui vont finalement trouver leur rédemption, etc. On n'est plus du tout là-dedans.
Et pourtant, malgré tout, on peut quand même retrouver dans Conquest certaines choses qui sont pluriséculaires, voire millénaires, si l'on évoque la théorie du héros aux mille visages de notre cher ami Campbell.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, donc... J'avais fait un dossier, il y a quelque temps de ça, dans Geek et Légende, sur justement Joseph Campbell. Et on avait discuté tous les deux, justement du fait qu'on s'était posé la question si César était effectivement un personnage qu'on pourrait qualifier de campbellien, entre guillemets. Donc, juste pour situer, vous recontextualiser tout ça. Donc, Joseph Campbell, c'était un mythologue, c'est-à-dire un spécialiste des mythes. Il était aussi anthropologue et philosophe, donc américain, qui est né en 1904 et mort en 1987. Très jeune, il va se passionner pour les contes et légendes au travers des cultures, au travers du temps. Et donc, il va accumuler des connaissances assez énormes sur tout ça, et il va découvrir que tous les mythes, au travers des cultures, au travers du temps, comme j'ai pu vous le dire, ils possèdent des points communs. Et ces points communs, il va les exposer dans un ouvrage qui s'appelle « Le héros aux mille visages », qui paraît en 1949, et il va y exposer, dans ce bouquin, le principe du monomythe. Donc, le voyage du héros, tel que défini par Campbell, se compose en fait en 12 étapes, et on peut les représenter sous forme d'un cercle, comme sur une horloge, si vous voulez. Ce qu'on va peut-être faire, c'est donner en fait les différentes étapes et peut-être essayer de replacer César là-dedans, si tu veux.
Je pense même qu'il faut dire aux auditeurs, là, on sort le cahier, crayon 4 couleurs, et on fait le dessin, on écoute ce que dit Fred.
Exactement. Étape 1, les amis. Donc,
j'écris en vert ou en rouge, monsieur?
Alors là, moi, je l'avais mis en bleu sur mon document. Alors, donc, étape 1, c'est le monde ordinaire. Il s'agit d'une introduction qui met le héros dans son environnement habituel. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est César qui donne des flyers aux passants pour promouvoir le spectacle d'Armando. Bon, et même on pourrait se dire que finalement cette étape, elle est presque grillée, parce que d'entrée, César, il est mis dans un monde qui n'est pas ordinaire pour lui. Hein, on est d'accord.
Ah non, ça se tient.
Ensuite, la seconde étape, c'est l'appel à l'aventure. L'appel à l'aventure qui va se présenter comme un problème ou un défi à relever. Donc Armando, moi ce que j'avais noté, c'est que Armando doit se rendre au poste de police suite à l'incident.
C'est vrai que moi je l'ai plus vu ça, moi, quand j'ai fait ma lecture campbellienne, je me suis plus dit, c'est le moment où il crie
« Lousy human bastard !»
On se dit, voilà, il est face à la violence policière et réagit, voilà, c'est sa manière à lui de rentrer dans le conflit quelque part.
Mais,
c'est vrai que celui-là il n'est pas forcément évident. Il y en a d'autres vraiment beaucoup plus évidents. Mais je te laisse continuer.
Donc la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le refus de l'appel. Le héros est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. Donc là, c'est le moment où il va résister, où César va résister à Armando, lui disant qu'il ne peut pas, qu'il peut pas vivre sans lui, en gros, dans cette ville hostile.
Ouais, là, c'est obvious, c'est comme souvent, on pense à Star Wars, mais franchement, parce que forcément, c'est le calque de la théorie campbellienne.
Il s'en est jamais caché, hein, Lucas.
C'est Luke qui ne veut pas suivre Obi-Wan. C'est exactement la même scène, quoi.
Ouais, on est d'accord. Donc, il y a ensuite la quatrième étape, c'est l'aide surnaturelle. Le héros est encouragé par un mentor, vieil homme sage ou autre. Quelquefois, le mentor donnera aussi une arme magique. Donc là, c'est le sabre laser qui est donné. Ah, pardon, non. Non, là, c'est Armando donc, qui est clairement le mentor de César.
Bon, après, est-ce que indirectement, l'arme magique, ce serait pas juste de lui dire « cache-toi parmi les tiens » parce qu'au final, c'est même... il lui donne le...
Ou est-ce que l'arme magique, c'est pas le langage?
Ah, ouais. Ah ouais, super bien vu, ouais.
Tu disais depuis tout à l'heure que en fait le langage était hyper important dans la saga de la plaine des singes, même dans le bouquin de Pierre Boulle, quoi. Donc ouais. Est-ce que c'est pas le langage justement de son arme secrète?
Ah ouais, ouais, mais c'est super bien vu ce que tu viens de dire là.
Eh. Tu vois, c'est...
Ah, je suis scié. Joli.
Bientôt, tu vas me dire, putain, mais t'es pas si con, en fait.
Non, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait l'entendre.
Non, non, mais les poditeurs sont témoins.
Non, mais c'est surtout... Et non, alors, moi, je vais tout dire aux poditeurs. C'est qu'on avait répété cette partie avant. Et ça, tu me l'avais pas dit. Tu m'as pris le cours.
C'est vrai. Non, mais j'ai eu un flash,
donc, c'est pour ça. Je dis, ouais, putain, ça me scie le fait que t'es... Putain, ouais, mais génial. Mais c'est trop ça, quoi. Je sais pas. Ouais. Si c'est voulu, mais moi je trouve que c'est la meilleure des réponses. Ouais.
Donc c'est l'arme secrète, c'est le langage, clairement. Donc le passage de seuil, donc là on est à la cinquième étape, pardon. Le passage du seuil, donc le héros passe le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire, il ne peut plus faire demi-tour. Vas-y, je te laisse le dire, vas-y.
Bah, moi, je me dis, voilà, il a quitté le cirque, même si ça n'a été qu'évoqué, on ne le voit pas, mais il a quitté le cirque là où il était protégé, et pour se retrouver plongé dans une société totalitaire, donc voilà, pour moi, là, c'est clairement ça. Et le seuil de l'aventure, c'est lorsqu'il rentre dans la cage avec les orang-outans. On est d'accord, là, c'est vraiment... Ça démarre, quoi.
Ouais. Donc, sixième étape, c'est le ventre de la baleine, le héros subit des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis. Donc je te laisse dire, vas-y.
Ah oui, bah c'est quand il est dans le centre de conditionnement. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi à ce moment-là où il parle chez Campbell de qu'il peut aussi recevoir l'aide, tu sais, d'un sidekick un peu.
Et aussi quelquefois effectivement le sidekick, il y a aussi la figure féminine qui est souvent évoquée par Campbell.
Et là il y a le personnage qui devait être incarné par Lou Wagner mais qui est passé à la trappe au dernier moment, et puis il y a le personnage de Lisa.
Il y a Lisa cependant qui est présente effectivement. Donc l'étape 7 c'est l'approche, le héros atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur, où l'objet de sa quête est caché.
Donc oui, là il est acheté par le gouverneur Breck, et puis c'est vrai que là, tu parles de profondeur, bon là pour le coup il est quand même souvent dans les souterrains, et puis oui, là,
ouais,
et le poste de commande est souterrain, et c'est là finalement qu'il va apprendre beaucoup de choses, quoi. Donc,
Exactement. Donc ensuite on a l'étape 8 qui est le supplice, la mort et la renaissance. Le héros subit l'épreuve suprême et il affronte la mort.
Je crois que là c'est même pas la peine de là pour le coup c'est hyper obvious, ouais.
Donc l'étape 9 c'est la récompense, le héros s'empare de l'objet de sa quête, c'est-à-dire l'élixir, en fait ce que Campbell appelait l'élixir. Donc là, pour nous, c'était pas si clair que ça là.
Mais moi tel que je le verrais quelque part, l'élixir un peu, c'est le fait que Breck le croit mort. Et ce qui va lui laisser suffisamment de temps pour faire basculer le...
Oui, d'accord. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, je pense que ça peut marcher.
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais élixir, c'est ce qui te ramène à la vie. Bon, là, c'est l'élixir quelque part. Ou alors, ça serait peut-être plutôt l'élixir. Ça serait le fait que McDonald arrive à couper le courant sans que personne s'en rende compte. Ça peut aussi être vu comme ça. Bon, celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux. Autant
Est-ce que ça, pour autant, c'est l'objet de sa quête? L'objet de la quête de César, c'est plus de rendre la liberté aux siens, quoi, non?
Ouais, c'est vrai.
Ouais, peut-être. Hein. Donc, ouais, après, c'était peut-être... Enfin, tout ça est plus diffus, entre guillemets. Donc,
ouais, la partie dont on parlait, le chemin du retour, le retour au monde ordinaire, tout ça, c'est pas... Voilà, bon, c'est pas super évident, quoi.
Ouais, après, donc, on avait la résurrection comme étape 11, donc le héros revient du monde extraordinaire où il s'est aventuré, transformé par l'expérience. Là, ça peut être le discours qu'il fait, effectivement. Bon.
Ouais, quand il prophétise,
Ouais, exactement. Et après, donc l'étape 12, donc c'est le retour avec l'élixir, le retour dans le monde ordinaire et l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde. Donc là, c'est peut-être la liberté qu'il a gagnée qui va supposément améliorer le monde.
Ouais, bon, ouais, peut-être. Bon, la fin est un peu tirée par les cheveux, mais je trouve que quand même...
On retrouve 9 sur 12, hein, ouais.
Ouais, donc. C'est exactement ça qu'on est. On est sur du 3 sur 4, c'est pas mal.
Ouais, c'est quand même très bien, ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma de Campbell marche très bien.
Moi, je dirais plutôt ça, parce que je pense pas... Même si, oui, il y a du classicisme dans l'écriture, hein, tu l'as très bien soulevé quand tu parlais du côté péplum. Le fait qu'il l'appelle César, bon, en plus on peut aussi y voir aussi une référence à Shakespeare. Non, Shakespeare il a rien écrit sur César, si.
Il a écrit Oui, Jules César, oui, Jules César, oui, il y a la pièce Jules César, Mankiewicz avait mis en scène.
J'ai eu un doute soudain en le disant, mais bon.
Et Mankiewicz qui avait réalisé aussi Cléopâtre. Putain, tout est dans tout, c'est incroyable.
Voilà, puis bon, il est 3h du matin, j'ai eu un doute sur Shakespeare quand même. Hein.
Voilà, rien n'est de rien là c'est à 3h du matin, ça commence.
Bon, écoute, moi j'aurais envie de dire que là, je pense qu'on a fait notre match.
Ouais, c'est clair, là, je pense qu'on a pris les 3 points là, on a.
Bon, est-ce que tu veux conclure ? Moi, j'avais écrit une petite conclusion.
Non, écoute, vas-y, on va t'écouter là. Je te sens chaud sur la conclusion. Alors, voilà. Tu me la vends depuis le début, depuis qu'on s'est retrouvé sur Skype. Donc, vas-y, fais ta conclusion.
Non, enfin, ce que je veux dire, pour moi, je pense que tu seras d'accord. Voilà, c'est un film qui demande quand même malgré tout un peu d'indulgence. Hein. On a parlé des facilités de scénario. Bon, et après, il y a quelques bonnes idées qui étaient dans la novelisation, dans le script originel, ou même dans les adaptations en comics qui sont passées à la trappe, qu'aurait pu mettre un peu d'huile dans certains rouages. T'entends Brigitte là ou pas?
Un tout petit peu, ouais, un tout petit peu. Ouais, j'avais plus l'impression que tu tapais du pied, mais...
Non, c'est Brigitte.
Ouais, je pense que ça va passer, ça passe. Hein.
Arrête de faire chier Brigitte.
merde.
Ouais, je vais être dans l'épisode. tout en défonçant le canapé. fait chier, hein. Bon, bref. Donc si tous les films de la saga ont une portée politique, c'est clairement le film le plus politique de tous. Dans Planète, on est dans l'allégorie, dans Conquest, on est carrément dans l'analogie. On est parti de quelque chose d'assez universel, de philosophique, pour aller au cœur des problèmes de la société américaine. Donc, ce recentrage avait déjà été amorcé avec Escape, hein, ceci dit, mais c'était encore évoqué que par petites touches. C'était que le sous-texte d'une histoire d'amour tragique. Ici, c'est clairement le thème principal du film. Hein. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'une partie de la critique reprochera au film, hein, de devenir trop monolithique, de devenir une parabole unidimensionnelle. Alors que bon, nous, finalement, c'est pour ça qu'on l'aime.
Oui.
Donc, en conclusion, je vais emprunter ici une formule d'Eric Green, donc je le rappelle, auteur de Planet of the Apes as American Myth. Donc, dans les deux premiers films, Planet et Binis, les personnages se posent cette question, que s'est-il passé ? Alors que dans Escape et Conquest, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de se passer et vers quoi cela nous mène-t-il ? C'est profond, hein ?
Ouais, après, mais ça demande effectivement à être peut-être expliqué, c'est ça. C'est que tu étais plus sur les deux premiers films de la saga sur du mystère, sur la résolution d'un mystère, hein, c'est ça, autrement dit ? Et donc les épisodes 3 et 4 sont plus sur du j'allais dire, alors je sais pas si c'est très très comment dire correct ce que je vais dire, mais sur de la prospective, c'est ça, t'es plus sur se demander quel sera l'avenir, quoi.
Et puis c'est vrai que la question, bah Taylor, hein, la question qui se pose tout le temps dans Planète, c'est comment on en est arrivé là, et alors que là c'est comme tu as dit, ouais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. C'est et c'est les questions que se posaient les gens, et c'est dans une société qui est en pleine mutation, et ils ont demandé qu'est-ce que ça va devenir, et au final bah c'est toujours la même merde. Et c'est peut-être ça qui est flippant. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé l'écriture de cet épisode, il n'y avait pas encore les événements de Charlottesville, n'avaient pas eu lieu, et c'est fou quand même. Cette thématique du totalitarisme, on le retrouve, hein, dans le dernier film de la nouvelle saga, dans War for the Planet of the Apes. Et c'est eux aussi, quand ils ont écrit le film, Trump n'avait pas encore été élu président, même si on sentait peut-être quand un peu venir le vent du boulet, mais c'est triste de se dire que malheureusement, oui, c'est toujours d'actualité, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter.
Ouais, c'est ça, c'est vrai que, comment dire, à travers l'histoire, on se dit que l'homme déjà ne tire pas les leçons de l'histoire, et que les temps ont beau changer, la technique a beau évoluer, mais l'homme reste le même, et donc refait les mêmes erreurs, quoi, une sorte d'éternel retour cher à Nietzsche, quoi, un peu. C'est peut-être de la psychologie un peu de bazar, de la philosophie à dessous que je suis en train de faire, mais bon, ça me semble assez vrai, il me semble.
Je crois qu'on va, on va se quitter sur les profondeurs de Nietzsche. je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Mon truc, il vient de mettre. J'ai été 3h du matin, là il est 2h05. Ah oui, parce que c'est le changement d'heure. Voilà, vous saurez tout.
On est dans l'heure blanche, hein, c'est ça.
Voilà, voilà. Ouf, ouais, c'est bien, on a gagné une heure. J'ai quand même un peu mal à la tête. moi je propose qu'on se dise au revoir maintenant.
Oui, alors je te laisse faire ta conclusion. Juste, comment dire, vous. vous conseiller encore une dernière fois, si vous arrivez à voir cette série de reportages sur la guerre du Vietnam donc de Ken Burns, c'est 9 épisodes de 52 minutes, ça vaut les meilleures séries que vous avez pu regarder, que ce soit House of Cards ou ce genre de série, enfin c'est sauf que c'est avec des vraies images d'archives, c'est absolument extraordinaire, mais c'est vraiment un des gros coups de cœur, mes gros coups de cœur de ce que j'ai vu sur les derniers mois, et c'est là qu'on se rend compte à quel point le conflit vietnamien a pu être matriciel pour l'histoire américaine et pour des gens qui comme nous aimons le cinéma, on se rend compte de beaucoup de choses et à quel point ça a pu bouleverser la société américaine et aussi finalement le monde des années 60-70. Voilà, c'était juste pour ça. Maintenant, je m'en vais sur la pointe des pieds. Je vous laisse avec le bon docteur Zaius.
Non, mais... mais c'est quoi, en fait? J'avais quand même un dernier truc de conclusion que je voulais dire, finalement. Et peut-être par rapport... j'en reviens un peu à des singes, mais au final, à la fin de ce film, si tu regardes bien, peut-être la conclusion qu'on pourrait dire, c'est que la violence ne permet que de faire passer le pouvoir d'un groupe à un autre, mais le schéma de la haine se perpétue.
Ouais, ouais.
Parce que c'est malheureusement la société des singes va reproduire exactement le même schéma. Oui. C'est juste que les hommes vont remplacer les singes.
Bien sûr. Ouais. Et les mêmes erreurs. Ouais. Et on va voir les mêmes schémas avec Aldo qui va s'opposer à César. César, les oppositions entre le docteur Zaius et des Cornelius, effectivement, c'est ça, comme tu disais, oui, c'est ça, le pouvoir a beau changer de main, finalement les abus seront les mêmes, les raccourcis seront les mêmes, et c'est pas ce qui va faire que ça va aller mieux, quoi.
On n'est pas déprimant du tout ce soir. Donc,
non, mais c'est vrai, parce que finalement, l'oppression a changé de camp. On le voit dans Conquest, quoi. C'est ce que la Société des Singes fait dans le premier opus de la saga, et pas beaucoup mieux que ce que font les hommes dans Conquest. Hein.
C'est même pareil. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est transposé, quoi, simplement.
C'est même pareil. C'est juste qu'ils n'ont pas exactement les mêmes moyens techniques, mais.
Ouais,
mais
c'est ça. Ouais. Ouais. C'est comme dans pareil. Excel. C'est copier-coller. Option transposée et puis roule ma poule, quoi.
Pay special, hop.
C'est ça, ouais. Juste la petite case à cocher transposée et puis c'est bon, voilà. On vous aura même fait un tuto Excel.
Putain, alors là, surtout venant de moi, c'est...
c'est vrai, bon.
Non, si je sais faire un velo cup quand même.
Attention.
Quand même. Hein. Voilà, c'est sur ces très belles paroles. Alors, on va aussi un peu. D'habitude, on termine toujours avec Rocket from the Crypt. Mais là, j'ai vu qu'on a beaucoup parlé du nazisme, ça m'est venu comme ça. Je pense que je vais vous passer un morceau d'un groupe belge qui s'appelle The Kids, un morceau qui date de 1978 et qui s'appelle Do You Love the Nazis. Donc voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt les Spartiates.
Salut.
la scène qui suit, c'est la scène que tu évoquais lorsque tu parlais de l'aspect un peu péplum du film. C'est la fameuse scène de la vente, enfin, je dis fameuse scène de la vente aux enchères parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire, oui. Par rapport à cette scène. Alors, je sais pas si t'as noté ce que moi j'ai noté.
Alors, je ne vois pas ton papier, donc dis-moi.
Non, mais quand je les ai notés, remarqué. Alors bon, déjà, donc, la mise à prix commence à $800 et finalement, il sera vendu $1,500 au gouverneur et moi, je vais vendre mon chien qui gratte de nouveau à la porte.
Alors, il ne faut pas que tu tues le chat, s'il te plaît. Là, tu m'entends peut-être au montage, hein, mais ne tue pas ton chat, s'il te plaît. D'accord ? Cette pauvre bête n'y pour rien. Ne craque pas. Faut que tu tiennes. Ça va aller. Hein ? J'espère que le montage se passe bien. Ok.
Bon, je suis désolé, c'est vraiment chaotique ce soir.
Non, il n'y a pas de problème. Non, je t'ai laissé un petit mot que tu verras au montage.
D'accord.